Bonjour à tous et bienvenue sur Science Sport Endurance pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec Jérémy et notre invité est Maëva Danois. Ancienne athlète et recordman de France Espoir sur 3000 steeples, elle pratique aujourd'hui le duathlon et prévoit de se lancer sur marathon et Ironman. On se retrouve tout de suite avec Maëva et Jérémy pour cet entretien.
Salut Maëva, comment ça va ?
Ça va super bien, j'espère que vous aussi.
Ah bah oui, super bien. Bon, du coup, pour commencer avec toi, on va tout d'abord parler de la première partie de ta vie, entre guillemets, où tu as été athlète de haut niveau, notamment sur 3000 steeples. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et les différents résultats que tu as eus ?
Alors, j'ai commencé dès toute petite à courir et je me suis très vite orientée vers le demi-fond. Mon père entraînait le demi-fond, ma mère courait également sur cette discipline, sur des distances de demi-fond. Donc forcément, un peu obligée de suivre le chemin des parents. Mon petit frère a suivi le chemin aussi. Donc c'était un peu une histoire familiale. Mon père était également coureur de 3000 mètres steeple. Et j'en suis arrivée à cette discipline vers l'adolescence où je commençais à en avoir marre de courir sur le plat. Et j'ai décidé de commencer à franchir des obstacles. Donc voilà comment j'en suis arrivée aux 3000 mètres steeple. Et après, forcément, toujours l'envie d'avoir de battre ses records, d'aller chercher des médailles. Et j'en suis arrivée à ma première sélection en équipe de France en Espoir 1. Donc c'était les Jeux Méditerranéens où j'ai fini première. Donc forcément, tout de suite, ça conforte dans le choix de continuer sur cette discipline. Et voilà comment j'ai petit à petit gravi les étapes sur cette discipline.
Et est-ce que tu pourrais nous rappeler du coup les autres résultats que tu as pu avoir dans ta carrière de sportif de haut niveau ?
Alors, j'ai pas ma fiche FFA sous les yeux, mais des plus grands moments dont je me souviens aujourd'hui et qui ont vraiment marqué ma carrière de steepleuse. Ça a été ce record de France déjà au championnat d'Europe Espoir sur 3000 mètres steeple où je finis deuxième également. Donc ça a été vraiment une des plus grandes récompenses que j'ai pu avoir de tous mes entraînements et sûrement un de mes plus beaux palmarès, on va dire. Il y a eu également des championnats d'Europe à Amsterdam, des championnats du monde à Londres. Donc forcément, ouais, ça a été de grands moments de vivre ça à l'international.
Et ton record de France sur steeple, il était de combien ?
9 minutes 40.
Et il vient d'être battu, là, c'est ça, cette année ?
Exactement. Donc j'ai passé le flambeau à ma camarade d'entraînement, Claire Palou, qui l'a battu cette année. Et voilà, c'est un plaisir de passer le témoin et de voir qui a la relève sur cette discipline. Les records sont faits pour être battus, donc ça fait partie du jeu. Et c'est avec grand plaisir que je passe le flambeau à Claire Palou, qui du coup est entraînée par Adrien Taouji, qui était mon entraîneur également.
Ouais, du coup, ton entraîneur, il fait des bonnes athlètes, pour le coup. Et,
Ouais, pour le coup, je pense qu'il a une bonne pépinière, voilà. Il entraîne sûrement pour battre les records de France sur steeple.
Et justement, pour la discipline qu'est le steeple, c'est une discipline qui reste quand même particulière par rapport aux barrières et aux différentes rivières. Comment tu intègres ce type d'obstacle en fait, dans ton entraînement quand tu prépares un steeple, par exemple ?
Alors, pour ma part, c'était quelque chose d'assez inné. On va dire que dès mes premiers steeples, j'aimais franchir les obstacles, j'avais pas de refus d'obstacles comme on peut voir avec des chevaux à l'équitation, parce que le steeple vient d'une discipline équine. Donc non, j'ai toujours eu cette volonté de franchir les obstacles. J'ai vraiment trouvé quelque chose d'amusant et de fun dans cette discipline. Ça cassait un peu la routine de faire des tours de piste sur du plat. Et forcément, beaucoup de concentration aussi. Et à l'entraînement, on a intégré au fil des années de la technique. Parce que forcément, il faut améliorer le geste technique pour être de plus en plus efficace et de perdre de moins en moins de secondes. Donc voilà, c'est des épreuves techniques. Donc il y avait des séances spécifiques où on plaçait des obstacles sur les séances. Par exemple, 12 x 400 avec 4 barrières. Et à la fin de séance, on passait des rivières dans le sable pour éviter tout traumatisme. Et voilà, donc ça, c'était au moment où il fallait préparer les compétitions sur steeple, mais on en faisait de plus en plus.
Ouais, surtout qu'on le rappelle quand même pour le steeple, c'est pas des haies traditionnelles, c'est-à-dire que quand on les touche, la barrière, elle bouge pas.
Non, elle tombe pas. Non, c'est nous. Enfin, voilà, il y a eu des chocs. J'ai eu des chutes hein, aussi. Hein. Je vais pas mentir en disant que je passe exceptionnellement bien les obstacles. Il y a eu quelques chutes quand même, des petits hématomes sur les genoux. Mais voilà, c'est ça qui renforce aussi dans la discipline. Mais ouais, non, elle tombe pas comme sur les.
Ouais. Et justement, nous, dans notre Master 2, en gros, on avait travaillé justement sur des modules qui permettaient justement de remplacer ces barrières et à l'entraînement pour éviter les blessures liées, comme tu as dit, à des contacts, etc. Donc, c'était vraiment intéressant. Et on se rend compte qu'au final, ouais, c'est imposant, c'est massif et qu'il ne faut pas forcément s'entraîner toujours avec les vraies barrières. Au risque de se blesser quoi, et de se faire mal.
Bah c'est surtout en fait l'impact après la rivière qui est assez violent. En soi, l'entraînement, on mettait des haies normales pour éviter justement qu'avec la fatigue, on vienne chuter contre les barrières et éviter de se blesser bêtement. Donc les rivières, ouais, on les mettait sur le sable pour éviter tout traumatisme. Et c'est comme ça, en 2018 d'ailleurs, sur une réception de rivière où je me suis rompu le ligament croisé. Et voilà, c'est là qu'on peut aussi comprendre que le 3000 mètres steeple, ça peut faire mal sur une réception, une mauvaise réception, ça peut très vite arriver aussi.
Et du coup, ta rupture du ligament croisé, c'est arrivé à l'entraînement ?
Pas du tout, c'est arrivé en compétition. Donc, j'avais déjà eu cette blessure de la même manière 8 ans avant, donc en 2010, sur l'autre genou. Le même jour pour l'anecdote et du coup ouais, rupture du ligament croisé à sortie de rivière à mi-course donc voilà, ça a été très difficile, mais ça a été source d'apprentissage.
Et donc justement, après ce type de blessure, comment ça se passe la réathlétisation pour revenir? Ça a été long?
Ça a pas été long parce que ça a été pris en charge assez rapidement et que j'ai été assez impliquée dans ma rééducation. Donc, je suis partie au CERS de Cap-Breton pour me rééduquer après l'opération. Avant l'opération, j'avais préparé l'opération justement pour revenir encore plus vite après. Donc, ça, c'est généralement ce qui est recommandé en cas de rupture du ligament croisé. C'est aussi d'avoir une prééducation, avant l'opération. Et beaucoup de travail d'imagerie mentale aussi pour enlever la peur de franchir les obstacles, justement. Et ça a été un travail de longue haleine qui a mis beaucoup de temps, on va dire, mais qu'en a valu la peine parce que j'ai énormément appris au travers de cette blessure sur moi, sur mon corps et sur ce que j'avais vraiment envie de faire dans mon sport.
Et il n'y a pas d'appréhension à revenir sur la rivière, les barrières après ce type de blessure?
C'est là l'importance du travail mental, en fait, la préparation mentale où on fait beaucoup d'imagerie. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus après une blessure. Beaucoup de sportifs travaillent avec une préparatrice mentale ou un préparateur mental pour justement enlever toutes ces craintes qu'on peut avoir dans un geste sportif et le travailler mentalement, en fait, La zone de la visualisation, elle est juste à côté de la zone motrice dans le cerveau. Et en fait, ça vient la stimuler. Et en fait, quand on reprend le mouvement, le geste, on a l'impression qu'on ne l'a jamais oublié, qu'on l'a entretenu et qu'on l'a entraîné. Et ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux que j'ai pu ressentir au travers de ma rééducation.
Ouais, c'est quelque chose qui se développe vachement en ce moment avec la réalité virtuelle. Et justement, il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font pour justement, comme tu l'as dit, travailler l'imagerie mentale, etc. On se rend compte qu'il y a un réel impact sur la performance, que ce soit pour les personnes comme toi qui a eu des blessures et qui peuvent pas forcément pratiquer directement leur discipline, et aussi pour se préparer et se mettre dans des conditions spécifiques d'entraînement, etc.
De championnat, ouais. Mais en fait, c'est plus on va travailler, plus on va être capable de le faire facilement. C'est comme l'entraînement, c'est en fait entraîner son mental et son cerveau à recevoir des images et à les mettre en place en suivant. Et en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec une préparatrice mentale au cours de ma carrière de stipleuse. Et ça avait été révolutionnaire au moment où la première fois, je me suis alignée sur une compétition internationale. J'étais flippée de rentrer dans le stade. Et en fait, avec la préparation mentale, j'ai réussi à enlever tout ce stress qui pouvait m'inhiber au cours de la compétition.
Ouais, c'est ultra important. D'ailleurs, ouais, j'ai un souvenir d'un ami à moi. Enfin, moi, je fais de l'aviron, si tu veux. Et en gros, quand tu es dans des courses, il y a une partie un peu attente avant la course, mais tu es quand même sur l'eau, sur le bateau avec tes coéquipiers. Et j'ai des coéquipiers qui, avant la course, fermaient les yeux et s'imaginaient en fait en train de ramer, etc. Faisaient vraiment de l'imagerie mentale et ça les permettait au moment du départ. Et bah d'être vraiment focus que sur ce qu'il faisait, enfin d'être vraiment de pas avoir de stress, etc.
Ouais, mais en fait, nous, c'est un peu pareil dans l'athlète. Des fois, les chambres d'appel, elles durent plus de 40 minutes. Et pendant ces 40 minutes, tu peux perdre tout ton influx nerveux. Et c'est là où tu peux perdre la compétition, justement. Et le fait d'avoir eu ce travail mental au préalable, ça te permet vraiment d'éviter de perdre tous tes moyens et de rester vraiment focus sur ta compétition et sur toi, ce que tu vas faire, en fait, pas sur tes adversaires. Et c'est vrai que ouais, la prépa mentale, rien que pour ça, c'est assez incroyable.
Ouais, exactement. Ne pas être spectateur de sa course, mais être acteur. Souvent, j'entends dire ça et je trouve ça vraiment intéressant et percutant comme notion.
Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
Et justement, la prépa mentale, t'as mis ça en place juste avant cette blessure-là ou c'était quelque chose que t'avais déjà bien avant pour tes compétitions dans les années précédentes?
Non, c'est quelque chose que j'ai entamé dès mon arrivée à l'INSEP. Et voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est important de s'entraîner à avoir cette préparation mentale, justement, parce que plus elle est mise en place tôt dans une carrière sportive, plus elle est efficace sur du long terme et plus on y trouve un sens, en fait, à cette préparation mentale. Et forcément, on la développe davantage au fil des années. Donc, plus on la commence tôt, mieux c'est. Et ouais, non, c'est quelque chose que j'ai commencé dès mon arrivée à l'INSEP, ouais.
Mais c'est vrai que ça reste un domaine d'expertise qui est un peu récent quand même. On a l'impression que avant, c'était encore estimé d'être faible que d'avoir un préparateur mental, etc.
C'est vrai. Après, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, ça se développe. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui n'est plus tabou dans le milieu du sport. Au contraire, un sportif qui n'est pas accompagné mentalement, mais on a tendance à se dire « Ah ouais, t'es pas accompagné mentalement, pourquoi ?» Après, tout le monde n'en a pas forcément besoin, tout le monde n'est pas réceptif à ce genre de travail personnel, on va dire. Mais voilà, c'est propre à chacun, la fréquence, pareil, elle est propre à chacun, à chaque athlète. Et le tout, c'est de savoir ce qui est bon pour sa performance et ce qui n'est pas bon. Et tout ça, c'est toujours un plus, ça c'est sûr. Et moi, en tout cas, la préparatrice mentale, elle faisait vraiment partie intégrante de mon staff. Et elle en fait toujours partie, même si aujourd'hui, je suis un peu plus autonome parce que voilà, j'estime avoir eu les tips nécessaires pour pouvoir me gérer mentalement seule. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai toujours besoin d'un petit regard extérieur, donc je n'hésite pas à la rappeler.
Quand tu étais à l'INSEP, ton staff, il était composé de quoi ?
Alors, l'entraîneur, le plus important. ensuite, la préparatrice mentale aussi, que je mets aussi sur la marche du podium. Le kiné qui est très important aussi. Après, il y a tout ce qui est annexe, donc la prof de yoga. Ceux qui vont nous rééduquer, mais pas des kinés en fait. C'est des personnes qui s'occupent de faire par exemple du travail de pied, de tout ce qui est prépa physique. Voilà, je trouvais pas le mot. prépa physique, mais ouais, non, le plus important c'est le coach, la prépa mentale et le kiné.
Ok, ouais, donc un sacré staff autour de toi. Et justement, maintenant que tu t'es mis, on a vu au duathlon, donc en D1, est-ce que tu as toujours un gros staff qui t'accompagne ou ça s'est vachement réduit?
Alors, déjà, j'ai quitté l'INSEP, donc forcément, je n'ai plus le même staff, même si je suis restée en très bon terme avec ces personnes qui m'ont fait grandir et qui m'ont accompagnée dans ma carrière de stipleuse aujourd'hui sur duathlon. Mais je vois ça plutôt comme une discipline où c'est un défi personnel, en fait, où je vais aller chercher des ressources que je ne connais pas encore en moi. Et forcément, le staff s'est réduit, mais j'arrive aujourd'hui à être autonome. Donc, je pense que tout ce qu'on m'a appris, mais aujourd'hui, j'en ai fait un savoir personnel. Et je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais l'expérience, depuis 20 ans que je pratique l'athlée, voilà, il y a eu de l'expérience d'emmagasiner. Et aujourd'hui, je me gère un peu plus de façon autonome.
Ouais, tu te connais bien mieux. Et justement, bah, je t'ai pas posé la question, mais ça aurait été sans doute la première à poser. Mais comment t'en es arrivé du coup à changer de discipline et à te mettre au duathlon maintenant?
Je sentais que j'avais une perte de plaisir en fait à tourner en rond sur la piste. Et c'est ma motivation principale, c'est d'y aller avec le plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais plus le même plaisir qu'avant courir sur la piste. Peut-être que ça reviendra un jour. Mais j'avais pas envie de m'éterniser sur quelque chose où voilà, je commençais à me lasser, j'avais trop de repères, je connaissais tous les temps de passage aux 100 mètres, aux 200, aux 400 mètres. Et j'en avais vraiment marre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sortir un peu de tous ces chronos et aller m'éclater sur quelque chose de fun et où j'ai aucun repère, où je connais personne, où voilà, j'y vais vraiment avec de l'insouciance et retrouver un peu ce grain de folie que j'avais perdu au fil des années.
Et justement, quand tu es au départ d'un duathlon au niveau du niveau du plateau en course à pied, tu dois être au-dessus, et en vélo, quel niveau t'as?
Alors, j'étais très étonnée de voir qu'à vélo, ça se passait plutôt bien. J'ai pu faire un duathlon, j'ai fini deuxième. Donc, ça m'a vraiment confortée dans le choix qu'en fait, quand on prend plaisir aux choses, on peut y arriver. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer. C'est voilà, si vous éprouvez du plaisir dans votre discipline, allez-y, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. Et c'est vrai que j'ai peur quand je suis sur le départ d'un duathlon parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? L'enchaînement course à pied-vélo, je ne l'ai pas bossé. Enfin voilà, je n'ai pas une expérience de dingue et je me dis, les filles, elles sont carrément plus expérimentées que moi. Donc forcément, c'est intimidant. Et au final, j'y vais tellement en mode je donne tout, j'ai rien à perdre, j'ai voilà, tout à gagner ou pas, mais voilà, j'y vais en mode j'ai rien à perdre et ça a marché en fait. Et vraiment, j'étais très étonnée de voir que à vélo, j'arrivais à me débrouiller avec le peu d'entraînement et voilà, même si là je m'entraîne de plus en plus à vélo et en course à pied. Mais ouais, non, c'était assez bluffant, on va dire. Donc, j'étais vraiment heureuse de commencer à découvrir cette discipline.
Ouais, pour ceux justement qui ne connaissent pas le duathlon, c'est enchaîner course à pied, vélo, puis de nouveau course à pied. Et toi, au niveau des sensations, est-ce que c'est différent entre la première course à pied et la deuxième après avoir fait le vélo?
Ah ouais, complètement. Franchement, le duathlon, ça fait vraiment mal. J'ai beaucoup souffert sur le 3000 mètres steep. C'est vraiment une discipline qui est quand même assez difficile parce qu'il y a beaucoup de relances et ça fait mal au corps, aux muscles, à la tête. Mais le duathlon, très honnêtement, ça fait vraiment très très mal. Ça casse les jambes. Le vélo, repartir après sur la course à pied, ça fait mal aussi. Et ouais, en fait, on est tout le temps le cœur à 200 à l'heure. Les transitions, il faut les faire à fond. Donc on tremble, on a mal partout et on n'a plus de souffle, il faut repartir. Donc en fait, c'est vraiment un effort intense.
Et justement, pour bien travailler les deux disciplines qui composent le duathlon, tu gères comment l'entraînement? Tu fais du bi-quotidien tous les jours, ça se passe comment?
Alors, je sais pas si je suis un exemple parce que comme je disais tout à l'heure, je suis pas forcément expérimentée sur cette discipline. Et j'y vais encore un peu à tâtons, mais ouais, non, j'essaie de me faire une spé duathlon une fois par semaine où du coup j'enchaîne du cardio-vélo et ensuite séance course à pied. Et après, non, je bosse très très peu les enchaînements, hein. J'essaie de dissocier, voilà, quand je sens que. En fait, je vois vraiment le vélo comme quelque chose déjà qui vient décharger un peu le kilométrage à la semaine. Déjà, c'était ma volonté principale en faisant du vélo, c'était de réduire un peu le kilométrage à la semaine, éviter Mais parce que la course à pied, c'est quand même un sport qui est assez traumatisant d'un point de vue articulaire et musculaire. Et avec le vélo, ben, j'avais justement cette soupape de me dire, mais voilà, je vais décharger un petit peu les articulations. Et ouais, non, du coup, ben, j'alterne un peu course-vélo à la semaine. Donc, il y a 2-3 sorties vélo grand max par semaine. Donc, je n'ai pas encore un gros kilométrage au niveau du vélo.
Ouais, tu utilises surtout le vélo pour éponger tes séances en course à pied. Mais est-ce que tu fais quand même des intensités en vélo, des programmes vraiment spécifiques intensités en vélo?
En fait, dans mes 3 sorties vélo de prévu la semaine, il y en a une qui sert à justement faire un peu tampon sur mes séances course à pied. Il y a une sortie longue et une sortie un peu avec de l'intensité et qui va jouer un peu sur des séances PMA. Donc voilà, j'alterne un petit peu, quoi.
Et étant donné que tu fais le duathlon que tu fais, c'est ce format sprint ou M, c'est ça?
Exactement, c'est un format S. Donc c'est assez court, mais je me laisse la possibilité d'évoluer sur un format un peu plus long, sur du long terme.
Et ça représente quoi la sortie longue que tu fais à vélo, justement, par rapport à la durée de la compétition en vélo?
Alors ma sortie longue que je fais chaque semaine, elle est entre 100 et 150 km. Donc voilà, j'en profite pour aussi faire un peu de dénivelé sur cette sortie longue. Et voilà, comme moi, ça bosse bien.
Sortie de 150 par rapport à du format sprint, c'est...
C'est très long. C'est très long, ouais, mais bon, après, comme je vous disais, j'ai pas encore beaucoup de notions sur les entraînements du duathlon. Mais voilà, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien, donc je continue dans cette direction.
Ok, il y a le plaisir, une belle sortie vélo en montagne ou quoi.
Exactement, j'ai la chance d'avoir le Pays Basque pas très loin ou les Pyrénées, donc forcément, c'est un peu la sortie plaisir ou. On va aller se faire plaisir avec un peu de dénivelé, un peu de colle et voilà.
Et justement, maintenant que tu fais du biathlon, il n'y a pas de triathlon de prévu?
Alors, triathlon, non. Par contre, sûrement un Ironman en 2022.
Ah oui, donc tu passes pas par quatre chemins, tu vas directement au plus long.
Exactement. Mais là, en fait, je suis en train de préparer le marathon de Paris du mois d'octobre. Et dans l'idée, en fait, ce marathon, ça serait une préparation également pour l'Ironman de 2022.
Ce serait quoi un peu tes objectifs en termes chronométriques sur ces deux épreuves?
Alors, sur marathon, j'aimerais faire moins de 2h40. Et sur l'Ironman, mais ça va dépendre de celui que je vais sélectionner. Pour le moment, c'est encore un point d'interrogation, mais voilà, j'ai aucun repère sur l'Ironman. Donc, ça sera. De faire le plus vite possible, on va dire.
2h50, ça fait 3h50, 3h45 au kilomètre, ça.
Exactement, ouais, à peu près.
Ça, pour un... si c'est un premier, en plus, ça fait un bel objectif.
Ouais, c'est un beau challenge. Là, du coup, je suis en pleine préparation marathon. Ouais, c'est un beau challenge. Donc, forcément, il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est tout à la fois excitant parce que je découvre. Mais de nouvelles émotions, de nouvelles sensations à l'entraînement, et ça, c'est cool.
D'accord. Et il est programmé pour quand, ce marathon?
Mois d'octobre, 17 octobre à Paris.
D'accord. Et là, la saison du duathlon, elle est finie ou il y en a encore?
Alors non, il y en a encore au mois de septembre. Il y a les championnats de France, donc avec mon club, on va essayer de. Là, pour le moment, on est première au classement avec les filles. Donc l'idée, ça serait de finir championne de France et de garder cette ligne de conduite qu'on s'est fixée jusqu'ici, de finir première. Donc voilà, on a un bel objectif par équipe et après en individu, bah, de faire le mieux possible, forcément.
Ouais, c'est pour une première saison, c'est vraiment top.
Ouais, c'est vraiment top et c'est stimulant en fait de le faire aussi en équipe et c'est vraiment une autre mentalité que la piste et j'apprécie vraiment en fait de redécouvrir tout ça dans le duathlon.
D'accord. Bon, on approche de la fin. Jérémy, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ces disciplines.
Bah, j'allais le poser la question des objectifs futurs, mais tu as un peu répondu à ma question avant que je la pose. Donc...
Voilà, j'ai anticipé vos questions.
Donc, ouais, un Ironman et le marathon de Paris. Et puis tu verras par la suite si peut-être que l'Ironman te plaît énormément. Rester sur du long, ça te conviendrait ou vraiment t'aimerais l'intensité plus haute et faire des distances bien plus courtes?
Mais c'est une bonne question. C'est vrai que là récemment j'ai fait la traversée des Pyrénées avec les bornées à vélo et je me suis découvert vraiment une passion pour les choses un peu ultra où il y a vraiment un effort qui est long et des émotions. On a le temps d'être traversé par toutes les émotions possibles. Donc c'est vrai que je pense que je vais plus tendre à m'orienter vers des disciplines longues. Donc, l'Ironman, le marathon, et après, pourquoi pas des 100 km. Enfin, je sais pas, je me laisse pas de limite. Pour le moment, déjà, dans un premier temps, c'est le marathon de Paris. Ensuite, on verra pour l'Ironman, et après, on verra ce qui suivra par la suite.
D'accord, ouais, donc de beaux objectifs. Bah écoute, on te souhaite le meilleur pour ces différents événements et j'espère que ça le fera.
Mais c'est gentil. C'est vrai que c'est pas évident de se lancer dans des objectifs comme ça, parce qu'en fait, je viens de commencer à travailler en tant que pédicure-podologue, donc c'est aussi savoir concilier entre la vie professionnelle, la vie sportive, la vie perso, et tout ça. Mais c'est des petits challenges hein, qu'il faut se donner. Mais c'est vrai que on verra comment j'aurai assimilé toute cette période de transition en ayant quitté l'INSEP et dans cette nouvelle vie.
Ouais, merci. Et du coup, on souhaite le meilleur pour que ce soit dans ta vie professionnelle avec ton métier et puis pour tes futures épreuves. Et puis on suivra un peu les résultats du marathon de Paris pour voir si t'es au niveau des 2h40 du coup.
Ouais, il n'y a pas de souci. Ça me met la pression un peu.
Ouais.
Salut
Bon, bah, allez, bonne journée à toi.
les gars.
Salut.